cadre appartenant à la lignée de prophètes de l'islam et aux familles des grands dignitaires religieux d'antan, fut enlevé en pleine révolution islamique d'Iran par le régime de Kadhafi. L'ancien régime libyen s'imaginait pouvoir mater ce combat libérateur, mais lui et les enfants de l'école de l'imam Khomeini au Liban non seulement créent un nouvel ordre, mais encore mirent à genoux l'armée de l'un des régimes les plus arrogants dans le monde, faisant ainsi la fierté du monde de l'islam.
Signe de bravoure. Seyed Moussa Sadr s'attira l'attention de tout le monde, y compris les hommes politiques, les universitaires et les professionnels de médias au Liban. Des articles qui étaient publiés vers le milieu des années 60 confirment bien cette réalité, comme on lit dans le quotidien Al-Havades, datant du 7 octobre 1966. Aucune personnalité ne s'était imposée au Liban autant que Seyed Moussa Sadr à ce niveau-là, au point que la plupart des politiciens et dignitaires religieux appréciaient sa personnalité. Mais les activités constantes et l'activisme de l'imam Moussa Sadr dans les domaines politiques et sociaux suscitèrent aussi la colère et la rancune de certains qui étaient insatisfaits de l'imposition d'un phénomène nommé Seyed Moussa Sadr. Ainsi, la réaction des perdants des activités de l'imam Moussa Sadr, comme les féodaux, principalement au sud du Liban, s'afficha plus que prévu.
Certaines rumeurs circulaient contre l'imam Moussa Sadr parmi la population, comme des accusations qui étaient portées contre les prophètes. Comme il est précisé dans le Coran, Dieu interdit d'être comme ceux qui infligèrent des souffrances au prophète Moïse. Or, Dieu m'acquitta de ce qu'on lui attribuait. Le prophète Moïse bénéficiait d'une place privilégiée auprès du Seigneur. En réponse aux rumeurs, on forma un grand groupe et on partit de la ville de Baalbek. Dans ce grand groupe magnifique, le mufti de la ville de Baalbek et certaines figures célèbres de la région étaient également présents. On se dirigea vers le club de l'imam Sadr dans la ville de Sour et organisa ensuite une rencontre populaire avec l'imam Moussa Sadr.
L'imam Moussa Sadr poursuivait son mouvement et son activisme et personne ne pouvait l'en empêcher. Pendant cette période sensible de l'histoire du Liban, l'imam Moussa Sadr réalisa son mouvement le plus grand. Beaucoup attendaient à ce que l'imam Moussa Sadr rende hommage au soutien populaire. Or, il demanda avec fermeté, publiquement et médiatiquement, qu'on traite les chiites avec justice et que les chiites aussi, tout comme les autres religions, bénéficient du droit d'organiser des réunions pour coordonner leurs affaires. Il plaida également pour la pleine contribution des chiites dans la gestion des affaires gouvernementales et administratives. Il appela aussi à la lutte contre la pauvreté dans les villages du sud, comme Beka et Okar. Suite à ces prises de position, les milieux chiites et leurs élites proposèrent une charte et un projet de loi pour la création de la Haute Assemblée islamique des chiites.
Au moment de la fondation de cette Assemblée islamique, les députés du Parlement et les oulémas religieux étaient divisés en deux groupes. Un premier groupe était pour comprenant des personnes comme Sabri Hamidi, Fazlallah Ben Hamdan et Mohamed Seyfeddin. Et un deuxième groupe était contre des gens comme Kamel Assad. Alors, de nombreuses réunions furent organisées au Parlement. J'ai participé à certaines de ces sessions. Au cours d'une réunion, Sabri Hamid était tellement submergé par le débat qu'il brisa la vitre de sa table. Et c'est M. Seyed Mohamed Seyfeddin qui calma de nouveau la situation. Enfin, de compte, le projet de loi fut adopté et 19 sièges furent remis aux chiites.
Les oppositions virulentes qu'on connues sont vraiment déplorables. Ils avaient des interprétations particulières de cette question. L'un d'entre eux disait qu'il s'agissait là de s'envoler vers un endroit inconnu, car cette expérience n'avait pas eu lieu par le passé. Il la considérait alors comme une sorte d'aventurisme et insistait qu'on ne change pas la situation. Un autre disait que l'imam Moussa Sadr voulait les mettre sous la domination du gouvernement.
Le 17 mai 1967, ce projet de loi fut adopté par les députés du Parlement libanais et l'imam Moussa Sadr fut désigné comme président de la Haute Assemblée des chiites. L'objectif de l'imam Moussa Sadr en fondant une telle instance était d'organiser et de coordonner les affaires des chiites dans le cadre d'une organisation qui soit dirigée par un jurisconsulte qui réunit toutes les tendances chiites. Cela exigeait que Seyed Moussa Sadr fasse preuve d'une grande flexibilité et loin des tendances intellectuelles de ceux qui, ayant des visions différentes, y étaient présents. L'objectif de l'imam Moussa Sadr était de regrouper les chiites dans une assemblée religieuse et sociale dans le cadre des activités politiques. L'assemblée des chiites n'était pas une instance en exercice, mais comme un parti élargi et un grand appareil administratif que l'imam Moussa Sadr utilisa le plus possible. La Haute Assemblée islamique chiite entama ses travaux vers la fin du mandat présidentiel d'Al-Hilo et du début de Soleiman Frangieh. Frangieh, Sahib al-Islam et Kamel Assad avaient une grande sensibilité envers le mouvement social de l'imam Moussa Sadr. Cette période, connue comme celle des conservateurs au Liban, n'admettait pas l'apparition d'un mouvement dynamique qui lutte contre la féodalité libanaise. Au point qu'Assad déclara manifestement son hostilité contre l'imam Moussa Sadr. Mais l'imam Moussa développa son activité et en 1973, il entreprit de prononcer des discours virulents et sans précédent. À l'époque, les dirigeants libanais ne s'accordaient pas avec les exigences de l'imam Moussa Sadr. Ses revendications avaient atteint leur apogée le 8 février 1994, quand la Haute Assemblée islamique chiite, lors d'une réunion présidée par l'imam Moussa Sadr et composée de groupes législateurs et exécutifs, approuva un document à 20 points. Ce communiqué comprenait une vingtaine de revendications au gouvernement libanais et son objectif était de restituer les droits de tous les déshérités, de tous les Libanais et à leur tête ceux qui vivaient en dehors de la région de Beyrouth, notamment la province de Jabal et les démunis tels que les habitants de la Bekaa, du nord et du sud du Liban. Une telle approche avait surpris tout le monde, en particulier les politiciens qui étaient stupéfaits de l'attitude de l'imam Moussa Sadr. L'histoire politique du Liban n'avait jamais connu une telle expérience. Le fait qu'un dignitaire religieux adopte une telle attitude contre les injustices sociales et politiques, qu'un dignitaire religieux entretienne des relations étroites avec toutes les catégories de la société libanaise et soit en même temps un politicien capable de diriger les revendications de son mouvement, de menacer les dirigeants d'opposition, d'organiser des rassemblements populaires à Sour et à Baalbek, auxquels avaient participé plus de 100 000 personnes, de jurer avec eux de persister sur leurs exigences jusqu'à ce qu'aucun démuni et région défavorisée ne soit plus au Liban. Le document à 20 points avait créé une lueur d'espoir pour les déshérités et les démunis. Il était une ligne rouge irréversible. Mais la guerre civile au Liban empêcha la marche légale et les revendications de l'imam Moussa Sadr d'aboutir. Le déclenchement de la guerre civile amena l'imam Moussa Sadr à focaliser toute son attention sur la protection des déshérités face à cette situation cruelle. Parfois, les images sont plus expressives et plus éloquentes que les mots. Dans la guerre civile dévastatrice du Liban, les musulmans étaient tués pour l'islam et les chrétiens pour le christianisme. Et certes, les classes dirigeantes et les détenteurs du pouvoir à l'époque étaient derrière cette guerre. On ne peut trouver aucune trace de l'imam Moussa Sadr lors des violences internes du Liban, car il ne faisait jamais partie des dirigeants libanais. Il portait au contraire le message de la paix et de l'amitié à l'adresse de tous les groupes libanais.